La nouvelle Suzuki Swift Hybrid. C'est un design inspirant, une technologie de pointe et une conduite exaltante à partir de 199 euros par mois. Nouvelle Suzuki Swift Hybrid. Place à l'exaltation.
Portes ouvertes ce week-end. Swift Hybrid Avantage. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 juin 2024. Si accord Arval Service Lease. Détails sur Suzuki.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
Soyez les bienvenus dans la matinale week-end RMC, il est 7h.
RMC, la matinale week-end.
L'heure de retrouver Victor Pourchet pour le journal. Bonjour Victor.
Bonjour Anaïs et bonjour à tous. À la une, cette question. Pourquoi ? Pour quelle raison précise un jeune homme a-t-il attaqué la synagogue de Rouen hier ? Tout ce que l'on sait sur le profil de l'assaillant tué par la police dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, la consultation chez le généraliste à 30 euros. On y va tout droit. Les médecins sont tombés d'accord hier avec l'assurance maladie. Et puis le football est un sport qui se joue à 11 et à la fin, ce sont les Lyonnaises qui gagnent 17e titre de championne de France remporté contre Paris hier soir.
Et puis à 7h10, on parlera des élections européennes qui approchent, c'est dans 3 semaines seulement. Est-ce que vous vous y intéressez ? Est-ce que vous savez déjà pour quelle liste vous allez voter ? Ce sera vous nous dire au 32-16.
Des centaines de personnes à Paris, d'autres à Rouen, toutes rassemblées après l'attaque d'une synagogue hier.
Un incendie déclenché par un homme âgé de 24 ans, le même qui s'est ensuite rué avec un couteau sur un policier qui l'a finalement abattu. Alors que l'émotion s'exprime, l'enquête, elle, démarre à commencer par le profil de l'assaillant Guillaume Bié.
L'assaillant n'avait jusqu'ici jamais eu affaire à la police et il était inconnu des services de renseignement. La seule procédure le concernant est administrative. Cet Algérien avait déposé il y a 2 ans à la préfecture de Seine-Maritime une demande de titre de séjour pour raison de santé, affirmant être malade et avoir besoin de soins spécifiques en France. Après examen et avis médical, sa demande a été rejetée. Il a alors fait l'objet d'une OQTF, lui laissant 1 mois pour quitter lui-même le territoire. Une décision qu'il a contestée en justice, mais le tribunal lui a donné tort au début de l'année. Conséquence, cet homme était officiellement en situation irrégulière, inscrit comme tel au fichier des personnes recherchées, ce qui aurait permis de l'arrêter s'il avait fait l'objet d'un contrôle d'identité.
Guillaume Bié pour RMC. L'enquête pour incendie volontaire visant un lieu de culte et violence volontaire se poursuit. La garde à vue du policier a quant à elle été levée. Vous l'entendiez dans la météo, la Moselle est à nouveau en vigilance rouge ce matin, cette fois-ci pour des crues. La pluie devrait se calmer cette nuit, mais la rivière Niers va continuer à monter tout au long de la journée, notamment près de Bouzonville. Écoutez son maire Armel Chaban.
On a été tous surpris par la violence des intempéries et surtout par leur intensité et leur régularité en fait. Une rue s'est transformée en une rivière avec un torrent qui se déverse dans toute la ville. On a dans certaines rues jusqu'à 1,50 m d'eau et dans certaines caves jusqu'à 3 m. Il y a malheureusement des habitants qui ont dû se réfugier dans les premiers et deuxièmes étages de leur maison parce que les rez-de-chaussée et les caves étaient complètement inondées. Alors on avait déjà connu des situations de ce type il y a quelques années, voire même dans les années 80, mais à ce niveau-là, clairement, c'est inédit.
Et je vous signale également que le département du Bas-Rhin est en vigilance orange cruche.
Dans l'actualité également, la consultation chez votre médecin généraliste qui pourrait bientôt passer à 30 euros.
Contre les 26,50 € qu'elle vous coûte actuellement, résultat de 48 heures de négociations tendues entre l'assurance maladie et les médecins. Inscrit donc dans un projet d'accord qui a été dévoilé hier à Najaujard, mais qui doit encore être validé par les adhérents des syndicats à la fin du mois.
Et oui, les consultations sont lancées en interne dans les syndicats de médecins. Ils ont jusqu'à la fin du mois pour se décider de voter pour ou contre ce projet d'accord. Pour Sophie Bauer, la présidente du syndicat des médecins libéraux, cette consultation à 30 euros, eh bien, c'était le minimum attendu.
Ça rattrape à peine et probablement pas complètement l'inflation de ces dernières années.
Mais on reste encore loin des 50 euros demandés par une partie de la profession.
Le problème, c'est toute cette charge administrative que les médecins ne peuvent pas décharger sur du personnel quand ils n'ont pas les moyens d'avoir du personnel. On a besoin de moderniser nos cabinets, on a besoin de matériel. Le fait d'avoir cette consultation permettrait à tous les médecins finalement d'embaucher un assistant médical ou une secrétaire.
Et si le projet d'accord est voté, les médecins pourraient donc augmenter leurs tarifs dès le mois de décembre prochain.
Anna Jojard pour RMC. 1000 renforts supplémentaires sont arrivés hier soir en Nouvelle-Calédonie. Encore une nuit d'accalmie alors que débute le sixième jour d'émeute causée par une réforme électorale. Pour l'entériner, le Congrès doit se réunir le mois prochain, mais la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat se sont dit favorables à un report devant Gabriel Attal. C'était hier à Matignon. À l'étranger, Volodymyr Zelensky ne croit pas à la trêve olympique voulue par Emmanuel Macron. Elle ferait le jeu de la Russie, martèle-t-il dans un entretien à l'AFP. Volodymyr Zelensky qui prévient aussi que la récente et violente offensive russe au nord-est de l'Ukraine pourrait n'être qu'une première vague. On y reviendra dans le détail dans le journal de 8h.
7h05 sur RMC. Le blocage des prisons sera-t-il levé aujourd'hui ?
C'est en tout cas l'appel des syndicats des surveillants pénitentiaires. 4 jours après l'assaut d'un fourgon et la mort de 2 agents dans l'heure. Il rencontrait hier le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui leur a promis notamment le développement de la visioconférence pour certains rendez-vous avec les juges. Écoutez Samuel Gauthier de la CGT pénitentiaire.
Il y a un flux trop important de mouvements vers l'extérieur qui fait que ça a amené, je pense, au drame qui s'est produit mardi dernier, qui restera en tout cas gravé dans nos mémoires à tout jamais. Et pour une fois, on a réussi, je pense, à obtenir des engagements pour limiter en tout cas les départs sur l'extérieur qui nous fragilisent dès lors qu'on doit quitter l'établissement pénitentiaire pour amener un détenu soit à l'hôpital, soit également au niveau des tribunaux judiciaires.
Samuel Gauthier de la CGT pénitentiaire.
Le football et un nouveau sacre pour les Lyonnaises.
17e titre de championne de France décroché hier soir avec cette victoire de 2-1 contre le Paris Saint-Germain en finale des play-offs. Il y en a une qui était là pour tous ces trophées, c'est Wendy Renard, la capitaine rodanienne.
On n'est pas rassasié de trophées, moi la première, donc on a fait un bon match ce soir. Par moments ça a été difficile, mais on a fait preuve de caractère, de détermination et d'efficacité. Donc notre titre est mérité à l'image de la saison régulière.
Et chez les hommes, la dernière journée de Ligue 2 a rendu son verdict. Angers remonte en première division. Le match nul 0-0 contre Dunkerque a suffi parce que Saint-Etienne, de son côté, a perdu 2-1 sur le terrain de Quevilly-Rouen. Les Verts joueront un barrage face au vainqueur de Rodez, Paris FC.
Et puis la flamme olympique continue son chemin.
Dans le Gers, aujourd'hui, après avoir dormi à Toulouse hier soir, bien dorloté en fin de parcours par le capitaine de l'équipe de France de rugby, Antoine Dupont. Mais avant cela, elle est passée par Villemur-sur-Tarn et la foule était au rendez-vous. Jean-Wilfried Forquès pour RMC aussi.
Anne-Marie, retraitée très impliquée dans le monde du sport amateur, a été la dernière relayeuse dans cette commune de 6000 habitants.
Quand mon fils m'a inscrit, franchement, je ne pensais pas faire le dernier relais et d'arriver sur un stade plein comme là, les larmes ont coulé. Hein.
Pour l'accueillir dans le stade, près de 1500 élèves d'école et de collège, comme Nathan et Liam.
Ah, c'est un sentiment de fierté de voir passer la flamme olympique dans sa ville.
C'est important parce que c'est quelque chose qu'on ne voit qu'une seule fois dans sa vie. Et le fait d'avoir vu, c'est émouvant.
Un moment de communication rare, inespéré pour le maire de la ville, Jean-Marc Dumoulin.
Ça relaye une image positive de la commune, ça permet de mettre en valeur les patrimoines et toutes les magnificences qu'on a sur ce territoire.
Un coup de projecteur qui doit attirer les touristes, espère Sandra.
J'espère que les gens vont pouvoir venir après jusque chez nous plutôt que dans les grandes villes comme Paris ou Marseille.
La flamme a passé moins de 30 minutes ici dans la commune, 30 minutes pour l'éternité, conclue par une Marseillaise.
Toute bonne fête finie par une Marseillaise. Et puis tiens, en parlant des Jeux Olympiques, on connaît la ville où s'entraîneront l'équipe de basket américaine et ses stars, LeBron James et ses amis, qui vont devoir oublier Los Angeles ou New York. Ils vont devoir aussi oublier Paris d'ailleurs. Ce sera Tourcoing comme camp de base pour Team USA. Et pour cause, je vous rappelle que les matchs de poule se joueront à Villeneuve-d'Ascq. Tourcoing, Los Angeles, faites votre choix.
J'hésite.
Je vous laisse responsable de votre réponse après. Hein.
Vous avez des billets pour les Jeux ?
Non,
Victor.
Malheureusement.
Et vous, Anaïs ? J'en ai.
C'est vrai, qu'est-ce que vous allez voir ?
Je suis censée aller voir le tir à l'arc, mais pour tout vous dire, j'ai pris 4 places, je me suis ruinée.
Ah bah oui,
et en fait, je vais devoir les revendre parce que mes filles ne seront pas là, je bosse, je dois m'organiser, et enfin voilà. Mais je vais réussir à les revendre, j'espère, parce que ça m'a coûté un bras.
Si vous voulez voir du tir à l'arc.
Voilà. Mais non, mais franchement, j'avais, ben oui, j'avais envie de participer à ces jeux et de montrer ça à mes enfants, évidemment.
C'est, sauf que c'est ce sur quoi vous êtes tombé, vous n'avez pas forcément choisi non plus.
Non, en fait, je voulais voir la gym. Oui, j'ai pas du tout les moyens. Voilà. Donc, au tir à l'arc, je me suis dit pourquoi pas. Mais bon. Ben tiens, vous nous dites, hein, vous aussi, au 32-16 et sur l'appli Direct Studio. Merci beaucoup, Victor. Restez bien avec nous sur RMC. À 7h40, on va faire le point sur la traque de Mohamed Amra, introuvable depuis l'attaque violente du fourgon qu'il transportait, au cours de laquelle deux agents pénitentiaires sont morts. On verra comment se passent les recherches avec Alain Morel, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.
À 7h20, c'est déjà demain avec vous, Mélinda Davansoulas. De quoi parle-t-on ce matin ?
De quoi parlait-on ce matin, Mélinda ?
Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'accessibilité et de tech. Comment chacun se retrouve sur un pied d'égalité ?
Mais d'abord, notre débat du jour sur les élections européennes qui approchent, c'est dans un peu plus de 3 semaines. Ces élections vous intéressent-elles ? Allez-vous suivre, tiens, notamment le débat entre Jordan Bardella et Gabriel Attal jeudi prochain ? On vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur RMC. On est ensemble jusqu'à 9h30.
RMC.
À vous de nous dire.
Avec Kevin Gasser. Bonjour Kevin.
Bonjour Peggy, bonjour Anaïs.
Bonjour Kevin, nous vous consultons et nous décryptons ensemble une question d'actualité sur notre compte Twitter. Nous vous interrogeons ce matin. Dans 3 semaines, les Français sont appelés à voter pour les élections européennes. Est-ce que ce scrutin vous intéresse ?
Oui, c'est la question que l'on vous pose ce matin parce que c'est bientôt, le 9 juin, que près de 50 millions d'électeurs français sont appelés à se rendre aux urnes. Alors pour choisir les 81 eurodéputés français, il y en a plus de 700 au niveau européen, élus au suffrage universel direct à un tour. La règle en gros, c'est que seuls les partis qui ont obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront d'un nombre de sièges qui sera lui proportionnel à leur nombre de voix. Ça, c'est pour le fonctionnement dans les grandes lignes.
Et ce n'est pas forcément, Kevin, un scrutin qui passionne les Français.
Oui, alors évidemment, ce ne sont que les 10e élections européennes qui se tiennent tous les 5 ans depuis 1979, une élection donc très jeune. Elles sont peut-être même moins ancrées dans l'esprit des Français que d'autres élections, mais l'Europe est certainement un sujet qui passionne moins les Français. Ça, il faut le dire. Il n'y a qu'à voir les audiences à la télé de jeudi soir. France 2 diffusait une émission consacrée aux élections qui n'a rassemblé que 836 000 téléspectateurs, soit 4% de part de marché, quand la nouvelle saison de la série HPI en face sur TF1 a fait près de 40% de part d'audience avec près de 8 400 000 téléspectateurs. Bon, c'est peut-être pas un indicateur très fiable, mais il y a plus fiable. Ouais. C'est le dernier taux de participation en 2019. Un électeur sur deux avait voté. C'est peu, mais toutefois, c'était la participation la plus forte depuis les élections de 1994.
Et que disent les dernières tendances concernant la participation ?
Alors, selon un sondage Ipsos publié jeudi dans Le Parisien, le taux de participation se trouverait dans les mêmes eaux qu'en 2019. Elle se situe à 45% et devrait remonter encore un peu jusqu'au jour du vote. Et les jeunes s'intéressent de plus en plus à cette élection. 30% d'entre eux comptent voter, selon cette fois un sondage IFOP pour La Croix publié jeudi. C'est 7 points de plus que lors de la même enquête réalisée en 2019. Et enfin, une question, qu'attendent les Français de ces élections, pour ceux qui s'y intéressent du moins ? Alors d'après un baromètre Via Voice réalisé par Radio France, l'économie arrive en tête pour 49% des sondés, suivi de l'immigration, 44%, et l'environnement, troisième, 38% des Français interrogés.
Alors à vous de nous dire ce matin, est-ce que ces élections européennes vous intéressent ?
Eh bien, vous avez répondu oui à plus de 64% à notre consultation sur Twitter.
Donc c'est plus important
que la majorité des Français.
Et vous, dites-nous, hein, est-ce que ces élections vous intéressent ou pas ? Est-ce que vous en connaissez les enjeux ? Est-ce que vous écoutez les interviews politiques ? Est-ce que vous savez pour quelle liste vous allez voter ? On vous attend au 32-16 tout au long de la matinée. Tiens, David est en ligne avec nous. Bonjour David.
Bonjour. Bonjour à tous.
Conducteur routier de 42 ans dans Lyon, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Intéressent ces élections ? Vous suivez les débats ?
Oui, je trouve ça important, parce que ça nous impacte sur la vie de tous les jours, et je pense que les Français s'y intéressent pas assez. Après, moi, je pense que le gros souci de l'Europe, c'est comme on nous l'a imposé en 2005, ça fait que, comme dit M. Macron, on est des Gaulois réfractaires. Et ben, je pense que les gens veulent pas aller voter aussi parce que cette Europe a été imposée. Mais moi, maintenant qu'on y est, on n'a pas d'autre choix que de faire avec. Et je trouve que c'est important. Si on veut que les choses changent, il faut aller voter.
Et peut-être aussi parce que les Français ne la comprennent pas toujours. Ils ne comprennent pas forcément toujours le fonctionnement des institutions.
Oui, exactement. Mais il faut bien qu'ils pensent que ça nous impacte tout le temps. Par exemple, le prix d'électricité qui est indexé sur le gaz, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Et donc, si la facture augmente, alors que notre réseau électrique et nucléaire, on est malgré tout impacté parce qu'on a mis un prix d'électricité indexé sur le prix du gaz. Et ça, les Français, il faut qu'ils s'en rendent compte. Et puis, s'ils veulent que tout ça change, il faut aller
voter.
C'est
pas assez concret pour eux, en fait.
Ouais. Ben voilà, en fait, c'est ça. Comme c'est pas national, ils se rendent pas vraiment compte de l'impact que ça a sur nos vies.
Vous savez déjà, sans nous dire pour qui, hein, vous savez déjà pour quelle liste vous allez voter ?
Oui. Oui. Après, je regarde encore les débats quand même parce que c'est toujours intéressant de regarder parce que même si je sais la liste pour laquelle je vais voter, ouais. Chez certains candidats aussi, il y a des choses intéressantes à entendre.
Oui, vous regardez le programme.
Vous restez ouvert.
Oui, je reste ouvert à l'écoute. Après, je sais pour qui je vais aller voter parce que moi, je veux que cette Europe change. Mais par contre, je reste ouvert à l'écoute et au débat.
Bah merci beaucoup hein, David de nous avoir appelé ce matin au 32-16 pour témoigner. Vous faites comme David, vous nous dites si ces élections européennes qui arrivent à grands pas dans 3 semaines à peu près vous intéressent. On vous attend tout au long de la matinée au 32-16.
Et il y a Dylan qui a envoyé un message justement, ouais. Et qui nous dit moi je trouve que c'est important de voter, et à partir du moment où on vote pas, derrière après il faut pas venir se plaindre.
Ah bah oui, bah il a pas tort. Ce matin, notez que je recevrai Grégory Allion, ancien président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, en 8e position sur la liste Renaissance de Valérie Ayé. Voilà, si vous voulez vous tenir informé, vivre ces élections, il sera avec nous à 8h40 sur RMC. Il est 7h17.
Et autre débat ce matin ?
Elle débat sur les restaurants, parce qu'on a Perico Legas qui viendra tout à l'heure nous parler des guides gastronomiques. Vous savez, les guides Michelin, le Go et Mio. Perico qui est très critique hein, sur ces guides qui sont plus si fiables que ça, d'après lui. Il nous dira tout à partir de 9h10. Et on vous pose cette question ce matin sur RMC. Vous, comment faites-vous pour choisir votre restaurant ? Bouche à oreille, réseaux sociaux, on vous attend aussi tout au long de la matinée. On a Stéphane ?
On a Stéphane. Appelle.
Bonjour Stéphane.
Bonjour toute l'équipe, bonjour tout le monde.
Ça va bien ? Vous nous appelez d'où Stéphane ?
J'appelle d'Aurillac.
D'Aurillac. Et oui. Alors comment vous faites, vous, pour trouver un resto ?
Alors, je prends les avis qui sont sur le site du restaurant.
Ah, directement ?
Oui, directement. Des fois, on a des mauvaises surprises. La dernière fois, j'ai vu un avis qui était pas mal, donc j'y suis avec madame, et du coup, on s'est retrouvé seul dans le restaurant.
Ah oui.
Donc, du coup.
Seul ?
Seul.
Mais c'était un restaurant de combien de couverts ?
Il y avait une vingtaine de tables.
Ah donc, oui. Mais le restaurant, il était comment ? Qu'est-ce que ça disait ? Parce que ça se trouve, enfin, vous étiez peut-être seul, mais c'était très bien, peut-être.
Les avis étaient très favorables hein, parce que j'ai dit, bon, comme on profite un peu avec madame, j'ai dit, je vais quand même pas aller. Parce que bon, je voulais que ça se passe bien et du coup, on s'est retrouvé tout seul.
Alors, est-ce que c'était bon ?
Ah oui, c'était bon. Par contre, on ne va pas dire, on était tout seul, mais la nourriture était très bonne.
Ouais,
par contre, ça fait un peu bizarre au niveau ambiance, tout ça.
Ah bah oui. Limite, vous avez privatisé le restaurant, quoi.
C'est ça.
Moi, par exemple, je vais vous dire quelque chose. Je ne vais pas dans les restaurants qui sont vides. Ça m'angoisse.
Ah bon ?
Ah ouais, ça m'angoisse.
Vous vous dites forcément que c'est pas bon ?
Non, je me dis pas ça parce que je veux laisser sa chance à chaque resto, mais j'ai pas envie de me retrouver, tout seul.
Il n'était pas seul, il était avec madame.
Oui, c'est vrai. Peut-être que des fois, c'est angoissant de s'en retrouver en face à face. Vous voyez ce que je veux dire, Peggy ? Bon, c'était bien ? Vous avez passé un bon moment ?
Ah oui, comme ça, on est vraiment tout seul. Hein. C'est plutôt pas mal.
D'accord.
Un peu angoissant au début, mais après, on s'y fait, finalement. Ouais.
Donc, vous faites essentiellement avec, comme ça, les avis sur Internet. Merci pour votre témoignage, Stéphane, ce matin sur RMC. Et vous faites comme Stéphane, vous continuez à témoigner, vous nous dites bouche à oreille comme Peggy. Réseaux sociaux, moi, j'avoue que j'ai beaucoup sur Instagram.
Ah.
Ouais, parce que j'aime bien voir, vous savez quoi, les photos des plats. Ça me fait envie. Je crois pas que ça plaise beaucoup à Perico, je vous parlerai tout à l'heure. À mon avis, il sera très critique. Rendez-vous tout à l'heure à 9h10. Il est 7h20.
Restez avec nous. Dans un instant, Mélinda d'Avansoulas arrive. C'est déjà demain.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Soyez les bienvenus. C'est la matinale week-end sur RMC. Il est 7h21.
RMC.
C'est déjà demain.
L'actualité de nouvelles technologies, c'est tous les jours sur RMC avec Mélinda d'Avansoulas.
Bonjour Mélinda.
Bonjour Anaïs. Bonjour Peggy.
C'est aujourd'hui la journée de sensibilisation à l'accessibilité et la tech est d'une grande aide pour les personnes handicapées avec de nombreuses innovations pour leur faciliter la vie.
Et oui, tous les géants d'Amazon à Microsoft en passant par Apple et Google ont pris le sujet au sérieux depuis de nombreuses années et multiplient les innovations pour équilibrer les chances de tous face à la technologie. Alors cette semaine,
semaine, Apple a dévoilé de nouvelles fonctions pour iPhone et iPad autour du suivi du regard. La caméra frontale de votre smartphone va ainsi scanner les yeux de la personne pour configurer la reconnaissance oculaire et ainsi être capable de comprendre le suivi du regard pour, par exemple, naviguer dans le téléphone et valider des actions. L'intelligence artificielle sera même capable d'apprendre de l'utilisateur sa façon de regarder, par exemple, pour améliorer et faciliter la compréhension des commandes. De nombreuses fonctions dans vos smartphones existent d'ailleurs pour aider les malvoyants à détecter des objets autour d'eux avec l'IA qui reconnaît un élément. Apple a d'ailleurs mis au point une fonction qui permet de savoir à combien de mètres vous êtes de la personne devant vous dans une file d'attente en pointant simplement votre smartphone devant vous. Ça permet même de savoir comment ouvrir la porte en face de vous, le sens de la poignée et sa position.
Et Mélina, pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer, il y a aussi des innovations ?
Et oui, la possibilité de taper du texte et qu'une voix de synthèse la prononce pour vous, ça c'est une option courante dans les téléphones depuis longtemps. Ça permet de participer par exemple à des appels vidéo sans difficulté. Mais la reconnaissance vocale pour les langages atypiques, ceux qui peuvent avoir divers soucis d'élocution, va aussi s'aider de l'intelligence artificielle. Sur l'iPhone, vous pourrez bientôt créer des raccourcis vocaux pour que Siri, l'assistant vocal, comprenne votre commande, même sur des onomatopées qui auront été ainsi configurées. L'IA comprendra ce que vous voulez dire et agira sur le téléphone en conséquence. Et si vous êtes amené à perdre votre voix, l'iPhone a aussi anticipé une fonction, mémoriser votre voix à l'avance et l'utiliser comme voix de synthèse quand vous ne pourrez plus vous exprimer que par écrit. Au moins, ce sera votre voix qui parlera pour vous. À noter aussi le projet Gameface chez Google, un logiciel qui suit votre visage et ses mouvements pour transformer le moindre sourcillement, la moindre mimique, en contrôle au choix. Le visage devient un véritable centre de commande.
Merci Mélinda, c'est déjà demain à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Allez, c'est l'heure de se marier avec Vincent Cerroussi.
RMC, la matinale week-end.
Cerroussi n'a pas tout compris.
Vincent Cerroussi qui fait hurler de rire, vous le savez, toute l'équipe d'Estelle Midi du lundi au vendredi. Cette semaine, Vincent est revenu sur cette étude qui vient de montrer que le nombre de jeunes adultes vivant encore chez leurs parents est en augmentation. Vous savez comment on les appelle ces jeunes, Peggy ? Les non. Tanguy.
Ah mais oui,
bah, ça a inspiré Vincent Cerroussi.
On parle bien du phénomène être un tanguy, c'est-à-dire lorsqu'un adulte a du mal à vivre avec sa famille. Après, l'inverse existe. Hein. Dupont de Ligonnès, lui, il avait du mal à vivre avec sa famille. Voilà, c'est différent. Non, mais c'est vrai que c'est marrant d'attribuer comme ça une caractéristique à quelqu'un. Par exemple, quand quelqu'un est lourd, tu lui dis juste oh t'es lourd. Tu vois, tu lui dis pas oh t'es Fred. Tu vois, c'est quand même un peu différent. Après, non, mais après il y a pas des tanguis partout. Hein. Les tanguis, on les retrouve principalement dans les Hauts-de-France. En même temps, c'est compliqué de quitter le domicile familial quand t'es marié à ta mère. Donc forcément, ça change. Non mais voilà, c'est une coutume.
Enfin vous dites ça, mais vous habitez encore chez votre père.
Ben bah ça va, pas besoin de le dire devant tout le monde.
Bah, vous le savez, vous parlez à vous dire de chronique.
Non, mais après, il y a deux catégories. Il y a être tanguy, c'est quand tu habites chez tes parents, et être à bout, c'est quand tu habites chez mes parents. Donc là, c'est différent. Ouais, d'ailleurs, mon père est en train de craquer. La dernière fois, je l'appelle pour lui dire que je vais rentrer tard parce que je suis avec un pote. Il m'a dit, t'as 27 ans, si tu pouvais ne pas rentrer du tout, ça serait pas mal. Il est à bout complètement, mais en même temps, c'est tellement bien de vivre chez ses parents. Ouais. C'est tellement pratique chez tes parents. Quand il n'y a plus d'eau chaude, bah, c'est réparé. Chez toi, quand il n'y a plus d'eau chaude, bah, il n'y a plus d'eau chaude. Voilà, ouais, c'est ça la différence.
Après, ne vous inquiétez pas, hein, il y a de plus en plus de tanguy chez les jeunes, vous n'êtes pas seul.
Bah, je sais bien, Macron dit fête des gosses, nous on est là, bah, on veut bien, mais il y a nos parents qui sont dans la chambre d'à côté. Donc, bah oui, on habite encore chez eux. Moi j'habite encore chez mon père, je veux dire, c'est un peu bizarre. On fait tout ensemble, on déjeune ensemble, on fait les courses ensemble. Moi c'est vrai que je suis un peu perdu, quoi. Quand on me demande si je suis en couple, je dis non, mais j'ai quelqu'un, quoi. C'est particulier.
Vincent Cerroussi que vous retrouvez du lundi au vendredi avec Estelle Midi, avec Estelle dans Estelle Midi. Restez avec nous, vous êtes sur RMC, il est 7h26, dans un instant la météo et l'info. Nous sommes le samedi 18 mai, bon réveil. Vous êtes sur RMC, il est 7h30.
RMC, la matinale week-end.
À l'heure d'un nouveau journal avec vous, Martin Bourdin, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Anaïs, bonjour à tous. Le début ce matin du dernier week-end prolongé avant l'été. Un cauchemar dans certaines communes situées sur des itinéraires bis, ça pourrit la vie des habitants. La justice veut remonter aux commanditaires des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Une enquête a été ouverte hier. La frange la plus radicale des indépendantistes calédoniens est notamment ciblée. Et puis Angers accompagnera Auxerre en Ligue 1 la saison prochaine. Saint-Etienne de son côté, c'est raté et devra passer par les barrages.
Et d'abord, ce nouveau week-end rallongé qui débute aujourd'hui.
Oui, après le viaduc de la semaine dernière, ce nouveau week-end de 3 jours pour beaucoup d'entre vous, puisque c'est férié lundi de Pentecôte. Il va donc y avoir encore du monde sur la route aujourd'hui, après le rouge d'hier, bison futé voit orange dans le sens des départs aujourd'hui. Un week-end prolongé qui ne fait pas forcément plaisir à tout le monde, notamment aux habitants des communes situées sur des itinéraires bis peu adaptés à accueillir un tel trafic. Anna Huot s'est retrouvée pour RMC dans les pots d'échappement au niveau de Choconin-Neuf-Montier, c'est près de Meaux, en Seine-et-Marne.
Dans cette commune d'un peu plus de 3000 âmes, seul le tintement du clocher de l'église rompt le silence de la nature, sauf quand viennent les heures de pointe et avec elles le ronflement des voitures, car le bourg est devenu un itinéraire bis, d'après Philippe.
Oui, c'est vrai que dès que la Nationale 3 est bloquée, automatiquement, ils détournent tous les véhicules sur Choconin, Neuf-Montier.
Et résultat, un peu beaucoup pénible pour Mélissa et Fabienne qui vivent ici depuis des années.
Il y a beaucoup de passages et très compliqué de circuler, quoi. En général, on sait qu'on peut rallonger 10-15 minutes le temps d'arriver chez nous.
Ils foncent, il ne faut pas attention à la sortie de l'école, c'est un petit peu dangereux.
Alexandra, elle relativise. Elle-même utilise cette application GPS.
Certainement que j'embête d'autres personnes ailleurs, c'est le jeu.
Le problème est bien connu de la mairie qui a déjà comptabilisé plus de 1000 passages sur une seule matinée. Emmanuel Calaillan, maire adjoint en charge de l'urbanisme.
On fait remonter aux autorités le département. On a également informé la communauté de communes du Pays de Meaux. Voilà, on attend des solutions.
L'autorité des routes départementales a notamment promis l'installation d'un système de comptage ainsi que d'outils pour relever la vitesse des véhicules.
Le week-end de la Pentecôte qui débute mal en Moselle, le département est à nouveau en vigilance rouge ce matin, cette fois-ci pour des crues. C'est la rivière Nié dans l'est du département qui sort de son lit et atteint des niveaux historiques. Hier, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en 24 heures sur le département.
Les surveillants pénitentiaires appelés à lever leur mouvement de grève.
Les syndicats saluent des avancées importantes avec le gouvernement dont les engagements répondent aux demandes des agents pour plus de sécurité. Ils étaient appelés, ces surveillants pénitentiaires, à bloquer les prisons depuis l'attaque d'un fourgon mardi dans l'heure. Deux de leurs collègues ont été abattus par un commando qui a permis l'évasion d'un détenu multirécidiviste, Mohamed Amra, toujours recherché par des centaines d'enquêteurs dont les investigations progressent. Guillaume Bier.
Parce qu'ils sont désormais tous hors de danger, les 3 agents pénitentiaires ayant survécu à l'attaque ont pu être entendus par les enquêteurs. Le choc, les tirs, leurs blessures, ils ont raconté la manière dont ils ont vécu cette évasion sanglante et comment le commando leur a directement tiré dessus, soulignent nos confrères de BFM TV. La police judiciaire qui continue d'enquêter tous azimuts a également interrogé l'entourage de Mohamed Amra, notamment ses parents et son ex-compagne avec laquelle il a eu un enfant. Des auditions de témoins en parallèle des investigations techniques. Dans la cellule de l'évadé à la maison d'arrêt d'Evreux, les policiers ont retrouvé un téléphone portable qui est en cours d'analyse. Toujours selon BFM TV, une dizaine d'autres téléphones ont également été saisis dans des cellules marseillaises, cette fois celles d'autres détenus complices présumés de Mohamed Amra dans une affaire d'assassinat.
Comment s'organise la traque de Mohamed Amra ? On essaie de tout comprendre juste après le journal avec un cadre de la sécurité intérieure.
Des magasins ont encore brûlé cette nuit dans le Grand Nouméa en Nouvelle-Calédonie malgré une situation un peu plus calme que ces derniers jours. 1000 gendarmes CRS, membres du GIGN supplémentaires sont arrivés hier soir sur l'île. Une enquête a également été ouverte, notamment pour associations de malfaiteurs, vols, groupements en vue de commettre des violences ou des dégradations pour tenter, Johanna Chabas, de remonter jusqu'au commanditaire de ces émeutes.
La procédure vise ceux qui ont instrumentalisé certains jeunes dans une spirale de radicalisation violente. Voilà les mots du procureur de la République de Nouvelle-Calédonie. Selon lui, il est clair que des commanditaires ont tiré les ficelles et préparé les émeutes. Le procureur cible notamment certains membres de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, cette frange la plus radicale des indépendantistes calédoniens. L'enquête est ouverte alors que le ministre de la Justice a envoyé une circulaire. Éric Dupond-Moretti demande au parquet de Nouméa la plus grande fermeté contre les émeutiers. Il veut que les responsables des faits les plus graves soient jugés le plus rapidement et sévèrement possible. Le ministre de la Justice dit même envisager le transfert des criminels arrêtés vers la métropole. Une mesure pour qu'il n'y ait pas de contamination des esprits les plus fragiles, selon lui, et un moyen de sécuriser les prisons calédoniennes.
Et face à cette situation très tendue en Nouvelle-Calédonie, le passage de la flamme olympique prévu le 11 juin a été annulé. Hier, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ont demandé à Gabriel Attal de repousser la date du congrès qui doit enterrer le projet de loi à l'origine des violences. RMC, 7h35. Lyon, toujours sur le toit du foot féminin français. Les Lyonnaises ont battu le PSG hier en finale du championnat pour s'adjuger un 17e titre de championne de France. Eux ne sont pas champions, mais ils ont aussi fait la fête toute la nuit. Les supporters du SCO Angers, un an après la descente du club en Ligue 2. Angers a donc validé son retour en Ligue 1 hier soir, malgré le nul concédé à domicile 0-0 face à Dunkerque. Angers profite de la défaite de Saint-Etienne à Rouen. Les Verts qui terminent donc 3e et devront passer par un barrage pour espérer retrouver l'élite. Il va falloir digérer la nouvelle pour les joueurs d'Olivier Dalloglio, l'entraîneur stéphanois.
Je suis déçu, comme les joueurs sont déçus. On avait l'occasion de pouvoir faire quelque chose, on ne l'a pas réalisé malheureusement. Maintenant, bon, il faudra passer la frustration et passer à autre chose. On a encore des choses à jouer.
Prochain rendez-vous pour les Verts, ce sera vendredi prochain face au vainqueur d'un premier match de play-off de Ligue 2 entre Rodez et le Paris FC. Et puis tiens, est-ce que ça vous tente de faire un petit tour par la salle de sport, Peggy?
Alors moi, j'y vais pas, donc vous rigolez.
Quelle idée, mais
si
c'est juste pour voir des hommes très musclés en slip moulant, est-ce que ça vous tente un peu?
Oui, c'est autre chose, bah fallait préciser.
Peggy,
qu'est-ce qu'il vous prend?
On va pas se mentir, Anaïs.
Je vous propose, dans ce cas-là, de prendre la direction de Bordeaux, où démarre ce matin le championnat de France de culturisme. Une quarantaine de participants vont donc prendre leur plus belle pose pour montrer leurs muscles. Et Pierre Bourgès, notre correspondant à Bordeaux, a dû se sentir un petit peu gringalet quand il les a rencontrés en pleine préparation pour RMC.
En coulisses, les 40 athlètes attendent leur tour en slip de compétition, plus ou moins coloré.
Allez, vous mettez de ce côté, 56, 35.
C'est le cas de Bruno, 54 ans, pour qui la pression commence à monter.
Le plaisir, ce sera après la compétition, un bon repas, rattraper tout ce qu'on n'a pas pu manger pendant des mois et des mois.
Alors tout le monde se toise. Michael vient de Guadeloupe pour l'événement. Il analyse déjà ses concurrents.
Il relâche au maximum et on voit toute la découpe. Ça me fera plaisir qu'il soit mon second, effectivement.
Michael a déjà été champion de France en 2019, alors il a tout fait pour pouvoir récupérer son titre.
Je m'entraîne entre 7 et 10 heures par jour. Je note tout, je prends mon poids le matin, je note quelle séance que je vais faire, combien de répétitions, qu'est-ce que je vais manger. Tout est écrit, tout est pesé, tout est calculé.
Alors comment être champion? Thierry Zambon, co-sélectionneur de l'équipe de France, délivre quelques critères.
On va avoir toute une partie de jugement sur l'harmonie, la symétrie du corps et une partie qui va être aussi sur la sèche, sur le peu de tissu adipeux qui reste.
Et d'autres critères sont pris en compte comme la pose de l'athlète ou encore son enthousiasme sur scène.
7 à 10 heures par jour d'entraînement. Ah, voilà.
Mais non, mais c'est...
Faire
un peu trop. C'est ce qu'on appelle l'enfer, non?
Déjà que moi, une demi-heure, je trouve ça trop.
Vous voilà, faites pas de sport?
Si, j'essaye, mais bon, une demi-heure, je suis content de terminer à la fin. Quoi.
Et qu'est-ce qu'il y a dit? 5% de tissu adipeux, mais en fait, il n'y a rien, il n'y a que la peau, quoi, il n'y a pas de gras.
Alors, Pierre Bourgès a essayé de s'inscrire, mais il ne faisait pas.
il faisait pas le poids.
Ça n'a pas marché.
Sans blague.
Merci beaucoup, Martin. On vous retrouve à 8h30 et le prochain journal à 8h avec Victor Pourchet, 7h38.
À suivre dans la matinale week-end.
Vous restez bien avec nous à 8h10 ce matin. On va parler de la Nouvelle-Calédonie puisque la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat ont demandé hier lors d'une réunion à Matignon une mission de dialogue et le report de la convocation du Congrès. On verra ça. On fera évidemment un point sur la situation avec Nicolas Legrand à Nouméa pour RMC et Ronan Dali, le président du syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie.
À 7h50, c'est Racontez-nous avec vous, Alfred Orange. De quoi parle-t-on ce matin?
On va parler d'une journaliste chinoise qui vient de faire 4 ans de prison pour avoir dénoncé la gestion du Covid.
Et dans 2 minutes, on va parler de la chasse à l'homme qui continue pour retrouver le détenu Mohamed Amra après l'attaque mortelle d'un convoi pénitentiaire qui a fait 2 morts mardi. 350 enquêteurs mobilisés. On va faire le point avec Alain Morel, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Il est avec nous dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Bon réveil avec RMC, il est 7h42.
RMC.
L'invité du jour.
Et l'invité du jour, c'est vous, Alain Morel, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.
Pour parler de la traque de Mohamed Amra, l'homme le plus recherché de France, depuis mardi, le fourgon pénitentiaire qu'il transportait a été attaqué dans l'heure. 2 agents tués, 3 autres blessés, 350 enquêteurs de la police judiciaire sont mobilisés pour tenter de le retrouver. Bonjour Alain Morel.
Bonjour Madame Castagna.
On va essayer de voir avec vous comment ils sont en train de travailler. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu de nombreuses auditions depuis mardi. Les 3 agents pénitentiaires ayant survécu à l'attaque ont été entendus. C'est la base, on interroge celles et ceux qui étaient sur place.
Bien sûr. Alors moi, je voudrais commencer cette intervention en vous disant que notre profession est particulièrement meurtrie par ce qui touche nos collègues de la pénitentiaire. Et ça provoque beaucoup d'émotions face à cette tuerie lâche et on n'a aucune considération de la vie humaine. Donc les auditions, bien sûr que c'est la base, à partir du moment où ceux-ci peuvent, leur état de santé leur permet, le permet. Mais il y a beaucoup de travail en parallèle, le travail technique, le travail sur l'ADN, la balistique, la téléphonie, la vidéo. On prend des contacts avec un maximum de personnes qui sont susceptibles de nous apporter des informations.
C'est-à-dire dans ce type de procédure, pas forcément cette enquête-là, mais comment ça se passe en général sur une traque?
Alors le track, oui, c'est un terme. Ce type de procédure, ce type d'affaire-là, chaque affaire est un peu différente, mais effectivement, on a des enquêteurs qui sont issus de police judiciaire, qui sont particulièrement rodés à ces affaires-là. C'est un rouleau compresseur qui se met en place. Tout est utilisé, tout est étudié, exploité. Et bien entendu, on a aussi la recherche et le travail sur les informations qui viennent du milieu, sur les relations qu'on peut avoir avec les uns ou les autres. Et on est devant une affaire hors norme qui a dû coûter beaucoup d'argent, qui a dû nécessiter beaucoup d'actes préparatoires. Donc tout ça laisse des traces et toutes ces traces-là sont recherchées, exploitées.
On vient d'apprendre qu'un téléphone portable avait été retrouvé dans sa cellule, dans la maison d'arrêt d'Evreux. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Tout ce qui a été fait à partir de ce téléphone portable va être étudié, c'est évident. Mais pas que. Par contre, ça soulève un problème sur les portables dans les prisons. Les prisons, aujourd'hui, ce sont de véritables standards téléphoniques. On a des commanditaires qui gèrent leur trafic de stupes, qui organisent les règlements de compte tranquillement de leur prison avec des moyens qu'ils ne devraient pas avoir.
Et donc, on regarde tous les appels qu'ils ont lancés, les contacts qu'ils avaient, on est à la recherche du moindre indice, hein, si je puis dire. Les enquêteurs ont repéré aussi deux voitures brûlées utilisées par les malfaiteurs à côté des communes normandes de Watteville, de Gauville-la-Campagne. J'imagine qu'ils ont analysé les vidéos issues des caméras de vidéosurveillance aux alentours, fait des contrôles dans la zone, tout ratissé au peigne fin.
Bien sûr, et c'est pas que aux alentours. Cette exploitation vidéo, elle est très large. Vous doutez bien que pour arriver...
Les efforts ne doivent pas se concentrer sur la Normandie, ils cherchent ailleurs, ils cherchent où d'après vous?
Mais quand on recherche ce type d'affaires, on recherche à les retrouver, y compris sur les vidéos, et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de rouleau compresseur où on exploite tout, le plus large possible, jusqu'à ce qu'on trouve leurs traces, et à partir de quel moment, à partir de quel endroit et jusqu'où. Donc tout est étudié à ce niveau-là. Est-ce que il y avait des suspects à proximité de la maison d'arrêt? Est-ce que c'est ailleurs? Tout est exploité.
À l'étranger, vous y croyez? D'ailleurs, Interpol a lancé une notice rouge pour retrouver.
C'est normal. Il faut rien laisser au hasard. Interpol a lancé une notice rouge. Il y a aussi des contrôles aux frontières. Il y a de la coopération internationale. Il ne s'agit pas de se louper et on ne se loupera pas sur cette affaire. Ce commando comportait beaucoup de personnes impliquées. Plus vous êtes nombreux, plus vous avez des failles. Ils sont en cavale. La cavale coûte cher. Il y a forcément des complicités qui ont été mises en œuvre. Les complices dans une affaire de cette envergure peuvent être un petit peu frileux et peuvent aussi se répandre dans leurs relations et on peut remonter aussi les choses comme ça.
Les complices, même si on n'est pas encore sûr que ce soit que c'est une fuite, une fugue, hein. Il se pourrait qu'il ait été aussi enlevé sans avoir organisé cette fugue. On n'est pas sûr de ça.
Que ce soit lui qui l'ait organisé ou que ce soit quelqu'un d'autre, ouais. Ça a été organisé.
Ouais.
Donc après, les hypothèses de savoir si c'est un enlèvement ou si c'est simplement une évasion, ça sera un autre sujet. Mais dans tous les cas de figure, ce sera aussi élucidé.
Attaque qui a suscité la colère des syndicats des surveillants pénitentiaires qui menaient un mouvement de blocage des prisons depuis mardi. Ils ont obtenu des avancées et appellent à lever le mouvement. Parmi les avancées obtenues, je voudrais vous entendre sur ça, le fait de banaliser une grande partie des véhicules des services pénitentiaires, les doter de véhicules type SUV, de renforcer la sécurisation de ces voitures, développer le recours à la visioconférence pour les interrogatoires. Ça va dans le bon sens selon vous?
Déjà, leur émotion est compréhensible dans un premier temps. Ensuite, rechercher à améliorer après une telle affaire, c'est normal également. C'est le bon sens quand on peut faire une visioconférence et que cela suffit. C'est très bien. C'est le bon sens de faire la bonne évaluation de la dangerosité du détenu quand on doit le transférer et d'utiliser le bon moyen. Vous savez, au lendemain des attentats qui mettaient en cause les frères Kouachi, on a tous en tête cette voiture de police qui reculait et qui se faisait tirer dessus avec un individu, avec une Kalachnikov. Dedans, on avait deux fonctionnaires de police qui étaient avec leurs simples armes de service, qui ne pouvaient pas riposter à ce type d'armes de guerre. Aujourd'hui, dans les véhicules de police, vous avez des HK-36, vous avez des moyens qui vous permettent de riposter. C'est les enseignements qu'on peut tirer. Là, en l'occurrence, est-ce qu'on peut faire des extractions avec des véhicules banalisés? Est-ce qu'à un moment donné, il faut plutôt utiliser des véhicules blindés? Est-ce qu'on doit faire accompagner par des services de police spécialisés pour les transferts?
Ça reste au cas par cas.
Ça existe. Ça existe, ça reste au cas par cas. C'est de l'évaluation qui doit être faite. À un moment donné, le fourgon tel qu'il a été utilisé sur cette affaire peut suffire sur des affaires, sur des transferts courants. Mais c'est une évaluation. Et tant qu'à faire, on prend pas de risque avec la vie. Et surtout, quand on parle de la sécurité, il faut pas lésiner sur les moyens. En face de nous, on a un narcotrafic où tous les moyens sont bons et ils sont illimités. Vous avez vu le rapport sénatorial, on estime à entre 3,5 milliards et 6 milliards d'euros le produit de cette économie souterraine. On a 315 homicides en 2023 qui sont liés. C'est une préoccupation constante et qui doit encore s'accentuer.
Merci beaucoup Alain Morel, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, d'être venu ce matin nous donner des clés ce matin sur RMC. Il est 7h50. Vous restez avec nous dans un instant. On va retrouver Alfred Orange pour raconter-nous.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Il est 7h52, vous écoutez RMC et vous vous réveillez avec Billie Eilish qui vient de sortir un nouvel album, c'est ça Peggy?
Oui, c'est sorti hier.
Bah, vous n'en saurez pas plus. Enfin si, dans deux minutes, il faut attendre un petit peu.
Mais avant d'abord,
racontez-nous.
Et c'est l'heure de retrouver Alfred Orange.
Pour racontez-nous, bonjour Alfred.
Bonjour Anaïs, bonjour Peggy.
Ce matin, l'histoire d'une journaliste chinoise qui vient de faire 4 ans de prison pour avoir dénoncé la gestion du Covid.
Elle s'appelle Zhang Shan, elle a d'abord été avocate avant de devenir journaliste indépendante et en février 2020, elle se trouvait à Wuhan, là où tout a commencé, au moment où tout a commencé, et elle a fait son travail, elle a diffusé des images de la situation dans les hôpitaux, en particulier une vidéo où l'on voyait des patients entassés sur des brancards dans le hall d'un hôpital, mais elle a aussi raconté la réaction des autorités chinoises à cette pandémie naissante, c'est-à-dire le confinement total bien plus sévère que celui que l'on a connu un mois plus tard en Europe. Sur les réseaux sociaux, Twitter et YouTube, Zhang Shan a dénoncé ce qu'elle appelait un emprisonnement. Elle disait « Nous n'avons plus accès à la vérité ». La réponse ne s'est pas faite attendre. Au bout de 4 mois, elle a été arrêtée, puis jugée et condamnée à 4 ans de prison.
Alors Alfred, elle a effectué sa peine dans des conditions particulièrement difficiles, hein?
Oui, le Figaro raconte que lorsque son avocat a pu lui rendre visite, il a découvert qu'elle avait perdu 34 kilos. Elle faisait une grève de la faim, elle avait une sonde dans le nez pour être nourrie de force et elle avait les mains attachées dans le dos pour qu'elle ne puisse pas arracher cette sonde. Lors de son procès, elle a comparu assise dans un fauteuil roulant. Son avocat a dénoncé le traitement particulièrement brutal qui lui a été réservé. Condamnée pour diffusion de fausses nouvelles, elle a entièrement effectué sa peine de 4 ans de prison. Sa libération a été annoncée lundi, mais on ne sait pas quel sort lui sera réservé. Elle sera sans doute assignée à résidence et réduite au silence. Il y a peu de chances qu'elle puisse reprendre son métier de journaliste.
Merci Alfred Orange. Racontez-nous, à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Avec vous Peggy Broche, ce matin on parle de Billie Eilish, son nouvel album.
Après, c'était un duo avec Khalid, Lovely, absolument magnifique.
J'adore.
Là, je pense que moi aussi, franchement, c'est un univers particulier, mais qui est juste envoûtant, j'ai envie de dire. La chanteuse de 22 ans a sorti son 3e album hier, Hit Me Hard and Soft, 10 titres qu'elle recommande à ses fans d'écouter du début à la fin
dans l'ordre. Alors elle dit, les chansons ne s'enchaînent pas comme un seul morceau de 44 minutes, mais c'est bien de rester dans la continuité, et c'est comme ça qu'il a été pensé. Ça c'est Lunch, la chanteuse californienne aux 9 Grammy Awards nous embarque avec sa voix à la fois intimiste et puissante, entre guitare acoustique, style très épuré, sonorité dub techno en passant par le reggae, des rythmes plus synthétiques, l'album est tout juste magnifique. Conçue avec son frère, avec lequel elle a toujours travaillé, Finis O'Connell, pardon. Le troisième album de Billie Eilish est moins marqué par le mal-être de l'adolescence que les précédents. La pochette est, elle, plutôt sombre, c'est vrai, on la voit tout en noir vêtue, sur fond bleu nuit, un peu plongée comme dans les abysses. Et pour tous les fans, notez bien ce rendez-vous, elle sera en tournée, hein, une tournée qui va débuter en septembre au Canada, aux États-Unis, avant de passer à Paris, à l'Accor Arena, les 10 et 11 juin 2025.
Bon bah là aussi, je serais intéressée, mais je pense qu'il n'y a plus de place, à mon avis.
Je sais pas, j'ai pas regardé. Parce non, bah, qu'elle a donné la tournée, elle en a parlé il y a quelques jours.
Bah, je vais regarder. Ouais.
Ça peut être intéressant. À
voir, c'est un génie, Billie Eilish, hyper jeune. Elle sort un troisième album.
Ans c'est seulement, troisième album. C'est magnifique ce qu'elle fait.
Allez, vous vous réveillez avec Billie Eilish, les 7h56 sur RMC.
La matinale week-end.